Bonjour frères et sœurs. Je vous invite d'ouvrir vos Bibles, nos Bibles, nous tous, dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, et nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 13. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1 à 13. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Samuel 16, 1 à 13. Nous lisons le premier verset. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous. » Et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel, et Tissi devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit arrivé ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux, et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignon au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. C'est la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ta parole déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Et cette parole qui vient de toi, c'est cette parole que nous voulons méditer ce matin, Seigneur. Permets qu'elle puisse prendre place dans nos cœurs et qu'elle puisse porter des fruits dans nos vies, Seigneur. Merci pour ce temps béni. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre message ce matin, l'Éternel regarde le cœur et non l'apparence extérieure. L'Éternel regarde le cœur et non l'apparence extérieure. Vous savez, les choix de Dieu diffère des choix des hommes. Des fois, les hommes, quand ils choisissent, quand ils font le choix, des fois, ils considèrent l'apparence extérieure. Des fois, ils considèrent l'homme, des fois, ils considèrent l'apparence extérieure. Tandis que Dieu regarde le cœur. Le cœur est la partie la plus intime de l'homme. Le cœur reflète la vraie personne. Et le cœur, c'est le centre même de notre vie chrétienne, notre vie intérieure. Notre cœur et la vie spirituelle sont liés. Parce que la Bible dit, Dieu éprouve le cœur, Dieu voit le cœur et Dieu sonde le cœur. Ce qu'il y a à l'intérieur, frères et sœurs, est plus important ce qui est à l'extérieur. Et nous devons apprendre à voir les choses comme Dieu le voit. Et ça, c'est très important dans notre vie chrétienne pour chacun d'entre nous. Voir les choses comme Dieu le voit. Le chapitre 16 de 1 Samuel commence par ces paroles que nous venons de lire. Commence par ces paroles de l'Éternel adressées à Samuel. Il est dit ceci, au verset 1, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Quand cesseras-tu de pleurer sur lui ?« Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Alors remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. » Dans d'autres versions, il est marqué chez Jessé. C'est le même nom. Je t'enverrai chez Isaïe. Il habitait à Bethléem. Car je vis parmi ses fils celui que je désire roi. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Samuel, pleure. Mais cette tristesse, ce pleur a une fin, doit prendre fin. Entre parenthèses, il y a un frère, on partageait avec ça, donc je crois que c'était samedi soir. Il m'a dit, oui frère, donc les pleurs ont une date d'expiration. Moi, je dis oui, dans ce passage, oui. Le pleur de Samuel avait une date d'expiration. Quand cesseras-tu de pleurer? Vous savez, quand Dieu dit qu'il est temps d'arrêter de pleurer, nous devons arrêter de pleurer. Et nous, dans notre vie chrétienne sur terre, nous pleurons pour beaucoup de choses. Nous pleurons non pas seulement pour nos péchés, nous pleurons pour beaucoup de choses que nous connaissons, beaucoup de circonstances que nous traversons, qui nous font pleurer. Mes frères et sœurs, quand Dieu dit « Quand cesseras-tu de pleurer ?» Arrête, stop. Le Seigneur sait pourquoi il te dit que stop, c'est stop. Ceux qui conduisent les voitures, ils savent, vous arrivez à un feu rouge, au stop, on fait quoi? On s'arrête. Stop, c'est stop, arrête de pleurer. C'est ce que Dieu a dit à Samuel. Et si Dieu dit stop, arrête de pleurer, le Seigneur sait pourquoi. Il a les raisons qui le poussent, Dieu a les raisons qui le poussent à te dire arrête de pleurer. Revenons pour le cas de Samuel. Dieu dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? Et Dieu, quand tu lui as dit stop, il lui donne les raisons. Et à partir de maintenant, arrête, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, arrête de pleurer. C'est pareil aussi dans nos vies. Dieu donne à Samuel deux raisons, deux pour lesquelles il ne doit plus pleurer. La première raison, toujours au verset 1, nous voyons, Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Il ne doit plus pleurer parce que Dieu dit, Dieu a rejeté Samuel. Dieu a rejeté Saoul. Et Dieu ne changera pas d'avis. Il ne changera pas d'avis. Il est dit au verset 1, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Voilà. Il dit à Samuel, la première raison, je l'ai rejeté. Toi, tu pleures sur lui, mais moi, je l'ai rejeté. Donc, arrête de pleurer pour lui, ça ne changera rien du tout. Les pleurs de Samuel ne changeront rien à la situation de Saül. Pourquoi? Parce que Dieu l'a rejeté. Donc, arrête de pleurer. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, Dieu dit à Samuel, Samuel n'a plus besoin de pleurer parce que Dieu a choisi un nouveau roi. Saül était roi, il a fait ce qu'il a fait, des péchés, et Samuel pleurait pour les péchés de Saül. Dieu a dit, c'est fini, on tourne la page, donc arrête de pleurer. Et la deuxième raison, il a dit que j'ai choisi un nouveau roi. Il est dit, toujours au verset 1, l'Éternel dit, « Car je vis parmi les fils d'Isaïe, c'est lui que je désire, roi. » Alors pourquoi tu dois continuer à pleurer? Pourquoi tu dois continuer à pleurer? Vous savez, dans nos vies aussi, c'est pareil. Nos pleurs ont une date d'expiration. Tu pries Dieu. Quand Dieu t'arrête, quand Dieu te dit, arrête, il y a des raisons pour lesquelles le Seigneur te dit d'arrêter. Et nous avons vu les deux raisons pour le cas de Samuel. Et Samuel a arrêté de pleurer. Quand Dieu dit arrête, on arrête. Grâce à cette parole, quand Dieu a dit à Samuel que l'Éternel dit à Samuel, car j'ai vu parmi les fils d'Isaïe, c'est lui que je désire pour roi. Grâce à cette parole de l'Éternel, nous savons que le prochain roi ne sera pas comme Saoul. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé un autre roi que lui-même Dieu désire. Alors, frères et sœurs, nous allons résumer notre texte en trois points ce matin. Ce passage, nous allons le résumer en trois parties. Premièrement, le cœur de Samuel pour Dieu. Deuxièmement, les rejets par Dieu des frères de David. Et enfin, David, le roi choisi par Dieu. Le cœur de Samuel pour Dieu. Samuel, le prophète, était loin d'être parfait, si nous lisons la Bible. Il avait même du mal à élever et à retenir ses propres fils, nous le savons. Mais il avait un cœur pour Dieu. Malgré cela, Samuel avait un cœur pour Dieu. Et nous pouvons le constater de trois manières dans ce passage. D'abord, nous le voyons dans ses larmes pour le péché de Saül. Nous le voyons dans ses pleurs, dans ses larmes pour le péché de Saül. L'Éternel dit au verset 1, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » À l'époque, Dieu avait permis aux enfants d'Israël de choisir leur roi. Et Samuel était là quand Saül devint roi pour la première fois. C'est même lui, Samuel, qui l'a oint comme roi. Mais Saül, le roi Saül, n'avait pas un cœur pour Dieu. Il n'avait pas de cœur pour Dieu. Ce qui s'est manifesté dans son orgueil et sa désobéissance. Saül était le premier roi d'Israël. Il a bien commencé, mais plus tard, son cœur est devenu mauvais et méchant. Et Samuel, étant homme de Dieu, étant prophète, était triste de voir cela. De voir que Saül est devenu désobéissant à Dieu. Il pleurait. Et il pleurait à juste titre. Il pleurait pour les péchés de Saül. Pas pour ses péchés, mais pour les péchés de quelqu'un d'autre. Il pleurait la désobéissance du roi Saül. En faisant cela, frères et sœurs, nous voyons par là que Samuel a montré qu'il avait un cœur pour Dieu en pleurant sur les péchés de Saül. Il faut aimer Dieu pour le faire. Il faut avoir un cœur pour Dieu pour le faire, pour pleurer pour quelqu'un d'autre, pour les péchés de quelqu'un d'autre. Alors une petite question, frères et sœurs. Est-ce que pourriez-vous pleurer pour vos péchés et pour les péchés des autres? Pleurons-nous pour nos péchés et pour les péchés des autres? Mais il y a une chose que nous devons comprendre aussi, frères et sœurs. Avant de pleurer pour les péchés des autres, nous devons d'abord commencer de pleurer pour nos propres péchés. Parce que si vous vous considérez, comme disait un frère, un TTS, très 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 spirituel, très saint, donc tu n'as pas de péché, comment tu peux pleurer pour le péché de quelqu'un d'autre? Comment tu peux pleurer pour le péché de quelqu'un d'autre? Parce que toi-même, tu te considères que j'ai rien à me reprocher. Circuler, il n'y a rien à me reprocher. Comment peux-tu pleurer pour le péché de quelqu'un d'autre? Oui, quand vous avez du mal à pleurer pour vos propres péchés, comment pourriez-vous pleurer pour les péchés des autres? Mais Samuel, lui, en lisant la parole de Dieu, il avait même pleuré pour le péché de ses enfants, de ses propres fils, pour ses propres péchés. Et il pouvait pleurer aussi pour le péché du roi Saül. Vous savez, le psaume 119, 36 dit ceci, psaume 119, 36, « Mes yeux versent des torrents de larmes parce qu'on n'observe point ta loi. » Quand tu vois quelqu'un qui n'observe pas la loi de l'Éternel, celui qui a un cœur pour Dieu va verser des larmes pour cette personne. Quand moi-même, j'observe pas la loi de l'Éternel, je dois verser les larmes pour moi-même aussi. Samuel a versé des larmes pour le péché de Saül, parce qu'il avait vu que Saül n'observait point la loi de l'Éternel. Par ses larmes, il exprime sa tristesse à l'égard de Saül, qui n'a pas marché selon la loi de Dieu. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, là où nous voyons le cœur de David, le cœur de Saül, de Samuel, pardon, pour Dieu, c'est dans sa confiance en Dieu, malgré le risque, malgré les dangers. Samuel avait confiance en Dieu. Nous lisons verset 2. Samuel dit à l'Éternel, « Comment irai-je à Bethléem? Saül la prendra et me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu prendras avec toi une génisse. » Dans d'autres versions, il est dit, « Tu prendras avec toi un veau. » Tu prendras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Samuel était inquiet lorsque Dieu lui dit, va, je t'enverrai chez Isaïe. Car je vis parmi ses fils, celui que je désire pour roi. Samuel a eu peur parce que aller à Bethléem pour joindre un nouveau roi était une mission pleine de risques. Pourquoi? Parce que si le roi en place, le roi Saül, en entendait parler, il pourrait le tuer. Il pourrait le tuer. Et Samuel exprime ses inquiétudes à l'Éternel et il se confie à l'Éternel. Il se confie à l'Éternel. Il a prié à ce sujet et Dieu lui a donné un plan. Malgré les dangers, malgré le risque, il a fait confiance au Seigneur. Il s'est confié à l'Éternel. Dieu lui a donné un plan. Et l'Éternel lui dit, tu amèneras avec toi un veau et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Oui, Samuel amènera une génisse pour le sacrifice. Maintenant, il a un double objectif. Parce que le premier objectif, c'était aller à Bethléem pour oindre le roi, le nouveau roi. Mais comme il a eu peur d'être tué par Saül en allant à Bethléem, l'Éternel lui dit, lui ajoute une deuxième mission, un deuxième objectif. Va là-bas, si on te demande, tu dis que je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Il a maintenant un double objectif en se rendant à Bethléem. Et comme nous l'avons lu, la consécration du nouveau roi sera plus privée que publique et fera partie d'un rituel sacrificiel plus petit, plutôt que dans une assemblée nationale où tout le monde est là. Ça sera beaucoup plus privé. Tout ce que Samuel a à faire, c'est d'y aller, de prendre un veau et d'inviter Isaïe et sa famille. Dieu fera le reste. Et Dieu lui montrera le nouveau roi. Remarquons que jusque-là, Dieu ne lui a pas dit qui il va oindre, qui il va consacrer roi. Dieu ne lui a pas donné le nom du nouveau roi. Dieu dit « va seulement ». Voilà l'obéissance de Samuel. Quelqu'un qui a un cœur pour Dieu, il fait confiance à Dieu. Il va sans savoir qui je vais consacrer roi. Il ne connaît pas le nom de la personne, mais il va, il obéit. Frères et sœurs, une personne qui a un cœur pour Dieu fera confiance à Dieu. Même en cas de danger, même en cas de risque, cette personne fera confiance en Dieu. Combien de gens, de fois, nous nous détournons du Seigneur quand il y a un danger, quand nous voyons que donc c'est risquant, quand nous sommes dans une situation un peu dangereuse. Certaines personnes, même pour prononcer le nom de Jésus, ils n'osent même pas. Ils n'osent même pas. Moi, je travaillais dans un milieu des amis, des collègues musulmans. Une fois, ils étaient en plein ramadan. Bon. Moi, je ne fais pas le ramadan. Moi, je suis chrétien. Et à midi, c'est la pause. On mange. On mange. Et moi, je dis, mais non, mais moi, je vais manger. Hein. Moi, je vais manger. J'ai chauffé ma gamelle. J'ai mis là sur la table et je commence à manger. Mais j'ai reçu des foudres de partout. T'as pas honte de manger, toi. T'as pas honte. C'est le ramadan. T'as pas honte. Moi, je dis, mais moi, je suis chrétien. Moi, je ne suis pas musulman. Et je mange. Malgré qu'on m'a insulté, malgré qu'on m'a dit tout ce qu'ils avaient besoin de dire, j'ai continué à manger jusqu'à la fin. J'ai fini même ma gamelle et je l'ai nettoyée. Et je l'ai nettoyée. Et j'étais surpris les gens qui me menaçaient. Bon, à un moment donné, ça m'a fait mal. Ce n'est pas le fait de manger, mais les personnes qui me disaient cela, ce sont des collègues avec qui on est comme ça. Ça m'a choqué. Des personnes, des collègues avec qui on partage, franchement, on part ensemble, on sort ensemble, on prend sa voiture, moi je prends ma voiture, mais ce sont ceux-là. Et j'ai vu leur vrai visage. Oui, Samuel, même, il y avait le risque, le danger d'être tué par Saül, il a fait confiance à l'Éternel et il est parti jusqu'à Bethléem. Et troisièmement, nous voyons enfin le cœur de Samuel pour Dieu dans son obéissance à la parole de Dieu. Son obéissance à la parole de Dieu. Samuel a fait exactement ce que le Seigneur a dit lorsqu'il arriva à Bethléem. Et la Bible dit que les anciens de la ville tremblèrent en le voyant. Mais Samuel leur dit, il dit ce que le Seigneur, ce que l'Éternel lui avait dit au verset 5. Il leur dit, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Oui, Samuel a dit ce que le Seigneur lui a dit. Il a fait ce que le Seigneur lui a dit de faire. Quelle obéissance! Il n'a pas rajouté, il n'a pas enlevé quoi que ce soit. Il a dit ce qu'il fallait dire. Il a fait ce qu'il fallait faire conformément au commandement, à la parole qu'il avait reçue de la part de l'Éternel. Malgré les dangers, il s'est rendu à Bethléem comme Dieu l'avait ordonné. Frères et sœurs, avoir un cœur pour Dieu passe par l'obéissance au commandement de Dieu. Passe par l'obéissance au commandement de Dieu. Celui qui aime Dieu obéira au commandement de Dieu. Oui, Samuel démontre son cœur pour Dieu. Donc, les larmes pour le péché de Saül, sa confiance en Dieu en cas de danger et son obéissance au commandement de Dieu. Maintenant, le deuxième point, nous passons du cœur de Samuel pour Dieu au rejet par Dieu des frères de David. Et notre deuxième partie, c'est le rejet par Dieu des frères de David. Nous lisons au verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et Isaïe, entre parenthèses, Isaïe ou Jessé, c'est le petit-fils de Ruth et Boaz dans l'Ancien Testament. Donc Isaïe, c'est le petit-fils de Ruth et Boaz. Alors, Isaïe a été invité au sacrifice avec ses 7 fils. Un à un, il passe devant Samuel pour voir lequel serait un roi. Et à chaque fois, Dieu dit à Samuel, non, je n'ai pas choisi celui-là. Je n'ai pas choisi celui-ci. Je n'ai pas choisi. Aucun d'eux n'a été choisi par Dieu. Et il y a une chose qu'on peut remarquer. Lorsque le fils aîné, qui s'appelle Eliab, le fils aîné d'Isaïe, qui était grand et blond, ce fils aîné, il était bien baraqué, passa devant Samuel. Même Samuel dans sa tête pensa que c'est lui que Dieu a choisi pour être roi. Vu son apparence, comment il était. Il y a des gens qui sont vraiment, quand tu les vois bien, vraiment, oui, c'est une autorité. Il a du pouvoir, il a de l'autorité. Et quand il passa, même Samuel pensa que c'est lui, Samuel a pensé que c'est lui que Dieu a choisi pour être roi. Regardez le verset 6, qu'est-ce que Samuel dit? Certainement, loin de l'Éternel, se tient ici devant. Il s'est dit ça dans sa tête, ah, je pense que c'est lui. Parce que jusque-là, Samuel ne savait pas qui sera un roi. Samuel ne le savait pas. En voyant l'apparence d'Eliab, Samuel dit, je pense que c'est celui-là. Et le Seigneur, notre Dieu, qui voit le cœur, qui voit nos pensées, qui lit dans nos pensées, qui sonde nos cœurs, qu'est-ce que l'Éternel dit à Samuel? Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille. Car quoi? Car je l'ai rejeté. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne tient pas compte de notre apparence extérieure. Dieu ne tient pas compte de cela. Dieu dit à Samuel, non, je l'ai rejeté, pas celui-là. Et Dieu mentionne même sa taille au verset 7. Il mentionne la taille. Il dit au verset 7, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est très important, frères et sœurs, dans tout ce que nous faisons, dans tous nos choix, nous devons voir les choses comme Dieu le voit. Que ce soit nos jeunes, que ce soit nous les plus âgés, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit dans toutes choses. Oh, coup de foudre. C'est bien bon coup de foudre. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Waouh, c'est bien bon. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Parce que toi, tu te fies qu'à l'apparence extérieure. Oui, l'apparence extérieure est bonne. Très bien. Vraiment. Bravo. Et son cœur. Parce que la vraie beauté d'une personne, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est vrai, nous les hommes, les yeux là, nos yeux là, c'est l'apparence extérieure. Hein. Mais le Dieu qui voit tout, qui voit plus que même les rayons X. Quand on fait la radio, on voit tout, mais à l'intérieur là, les rayons X là, la radio, ils sont limités, hein. Ils ne vont pas plus loin. Hein. Mais Dieu voit tout. Dieu dit au verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Regarde au cœur. Samuel vit Eliab, mais ne parvint pas à le voir comme l'Éternel le voyait. Samuel l'a vu, il est grand, il voit la hauteur de sa taille, il voit les biceps, il voit, il dit la beauté de l'homme, il dit, c'est lui le Dieu. Il ne voit pas comme Dieu le voit. Qu'est-ce que Dieu dit? Je l'ai rejeté. C'est lui qui voit le cœur, c'est lui qui sonde le cœur, dit, je l'ai rejeté. Oui, frères et sœurs, Samuel basait son jugement sur ce qu'il voyait, sur l'apparence extérieure. L'homme regarde l'apparence extérieure, mais Dieu regarde le cœur. L'homme ne peut pas voir le cœur de l'homme, seul Dieu peut le voir. Vous ne pouvez pas voir mon cœur, mais Dieu voit mon cœur, il sait ce qu'il y a là. Il sait ce que vous, vous ne voyez pas. Mais le Seigneur sait. On peut comprendre la pensée de Samuel. Eliab était sans doute un homme impressionnant par son apparence physique. Mais comme nous l'avons dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Nous regardons l'apparence extérieure parce que c'est tout ce que nous pouvons voir. Qu'est-ce qu'on peut voir encore d'autre avec nos yeux? Rien du tout. À part l'apparence extérieure, nos yeux là, qu'est-ce qu'ils peuvent voir encore? Rien. Avant même d'arriver au cœur là, il y a la peau, après il y a le muscle, tout ça. Même le muscle, on ne voit même pas. On s'arrête seulement à l'extérieur. On voit seulement l'extérieur. Oui. 1 Roi chapitre 8, le verset 39 dit ceci, 39b, 1 Roi 8, 39b, Dieu qui connaît le cœur de chacun, car lui seul connaît le cœur de tous les hommes. Seul l'Éternel qui connaît le cœur de chacun d'entre nous comme nous sommes là, parce que lui, il connaît le cœur de tous les hommes. Alors, une question, frères et sœurs. Quand Dieu regarde notre cœur, ce matin-là, comme nous sommes là, quand Dieu regarde notre cœur, que voit-il? Il voit, qu'est-ce qu'il voit dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il voit dans mon cœur? Quand il nous regarde maintenant, là, à l'instant, qu'est-ce qu'il voit? N'oublions pas que Dieu cherche ceux dont le cœur est pleinement engagé pour lui. Un cœur qui aime Dieu, c'est ce que Dieu recherche. Est-ce que notre cœur est pleinement engagé pour le Seigneur? Parce que c'est ce que Dieu recherche et ce que Dieu veut voir dans nos cœurs. Enfin, la troisième partie, David, le roi choisi par Dieu. Nous avons vu le cœur de Samuel pour Dieu, les rejets par Dieu des frères de David. Maintenant, David, le roi choisi par Dieu. Dieu dit à Samuel, toujours au verset 1, « Remplis ta corne d'huile et va, et je t'enverrai chez Isaïe, car je vis parmi ses fils, pas parmi les fils de quelqu'un d'autre, mais parmi les fils d'Isaïe, celui que je désire roi. » Et après avoir rassuré les anciens qui étaient effrayés, qu'ils avaient aucune raison d'avoir peur, Samuel commença alors la cérémonie d'onction royale. Mais le problème, une question, il y avait un petit souci. Qui Samuel doit consacrer roi? Jusque-là, personne ne sait. Ni les anciens, ni lui-même Isaïe leur père, ni lui-même Samuel. Personne ne sait. Alors Isaïe est venu avec ses 7 fils. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux, comme nous l'avons vu. Il les a tous rejetés. Ah, mais les 7 fils étaient là. Mais le Seigneur les a rejetés. Et nous savons que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne peut pas se tromper. Et il ne peut donc y avoir une seule explication à cela. Tu es venu avec tes 7 enfants. Le Seigneur les a rejetés. Alors que Dieu dit, c'est un de tes fils qu'on doit consacrer roi. Donc, Isaïe doit avoir un autre fils. Samuel dit, non, Isaïe doit avoir un autre fils. Et Samuel pose la question à Isaïe au verset 11. Samuel pose la question à Isaïe. Il dit, mais je ne comprends pas. Ce sont là tous tes fils que tu as. Samuel pose la question à leur père, mais ce sont là tous tes fils que tu as. Et la réponse de Isaïe, il dit, il reste encore le jeune, mais il garde les brebis. Samuel lui dit, envoie quelqu'un aller le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Mais pourquoi il n'avait pas présenté tous ses enfants? Donc il en avait 8 alors. Mais pourquoi il a présenté seulement les 7? Et le dernier n'était pas là. Pourquoi? Il y avait donc un autre fils, le plus jeune de tous les frères que Isaïe avait laissé dans le champ pour s'occuper des brebis. Et le dernier, il était en bas. Il était vraiment en bas de l'ordre hiérarchique de la famille. Pire encore, il n'était pas de grande taille. Et impressionnant. Ce n'est pas comme nos enfants ici, le dernier, il dépasse même papa et maman et son aîné. Avec tout ce qu'ils mangent là, des McDo, des couilles. Tu vois le dernier, donc le plus petit, mais il est plus grand que tout le monde. Je ne parle pas de Samuel. Hein. Donc, mais le plus petit était... Non. Il dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Il n'était pas impressionnant comme son aîné Eliab. Il n'avait pas l'apparence extérieure qui pouvait attirer les regards des autres, même le regard de son père. Son propre père le considère trop jeune et l'a même pas invité à la cérémonie de consécration. Il l'a même pas invité à la cérémonie de consécration royale. Selon son père, comme on nous dit souvent quand nous cherchons du travail, ton profil ne correspond pas au poste recherché. Et le profil du dernier, du tout dernier, d'après son père, non, son profil ne correspond pas à ce que Dieu recherche comme roi. La seule chose qu'il sait, le petit, c'est s'occuper des brebis. C'est tout ce qu'il sait, pas autre chose. Et du point de vue humain, du point de vue de son père, il ne pouvait pas être un bon candidat pour le trône, pour être roi. Ce n'est pas le bon candidat. Son profil ne correspond pas. Automatiquement, donc, dans sa tête, il était déjà écarté. C'est pour cela qu'il ne l'a même pas invité. Il a présenté quel est cet peu et pas le dernier. Si vous souvenez, frères et sœurs, souvenez-vous de l'histoire de David et Goliath. Lorsque Goliath a vu David, qu'est-ce que Goliath a dit? Il l'a méprisé. Il l'a méprisé. Parce que il ne ressemblait en rien à un adversaire digne de ce nom. Et Goliath a dit, mais il a accusé Israël. Il a dit, mais tiens, vous m'envoyez des chiens comme ça. Donc, imaginez comment il était le tout derrière. Ce n'était pas un compliment quand Goliath a dit ça. Mais, frères et sœurs, 1 Corinthiens 1, 28 à 30 dit ceci. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Pour confondre les fortes, Dieu a choisi les choses viles et méprisables du monde, celles qui ne sont rien pour réduire à néant celles qui sont, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. En tant que jeune frère, le tout petit était sans doute habitué à être ignoré, inaperçu et négligé. Ne faisons pas cette erreur dans nos familles, frères et sœurs. Il y a des familles, certaines familles, qui négligent d'autres enfants. Oh, pff, regarde comment il est. Oh, pff, regarde ce qu'il fait. Regarde à quoi il ressemble. C'était à peu près ça. Son père l'a ignoré carrément. Mais les choix de Dieu diffèrent des choix des hommes. Les choix de Dieu diffèrent des choix des hommes afin que Dieu, à la fin, puisse recevoir la gloire, toute la gloire, et que nous ne nous glorifions pas de nos propres capacités, de nos propres forces. Le Seigneur regarde le cœur et non l'apparence extérieure. Le verset 13 dit ceci. Samuel prit la corne d'huile, il consacra le tout dernier, le plus petit, au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours-là et dans la suite. Quand on l'a ramené, quand il est revenu des champs, quand il est revenu, Samuel l'a vu, il s'est placé devant Samuel et Dieu a dit, c'est celui-là que tu dois consacrer, roi. Nous découvrons deux choses dans ce verset 13. D'abord, il est dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours-là et dans la suite. Ce qui n'était pas le cas pour le roi Saül, qui semblait recevoir l'Esprit sporadiquement et seulement plus tard, après avoir été oint comme roi. Mais David, c'était le même jour et jusque dans la suite. Deuxièmement, ce que nous constatons dans le verset 13, nous apprenons enfin, tout le monde qui était là, c'est en ce moment-là qu'ils ont appris le nom du nouveau roi. Que c'était David. Tout le monde ne le savait pas. Et là, ils ont appris que c'était David. Vous savez, David signifie bien-aimé. Le nom David signifie bien-aimé. Comme Jésus-Christ, David est originaire de Bethléem. Jésus-Christ est né à Bethléem. Comme Jésus-Christ, David fut un berger et un roi. Christ est le berger et le roi aussi. Comme Jésus-Christ, David plus tard, si nous lisons, David délivra son peuple de l'ennemi. Et Dieu, Jésus-Christ aussi, nous délivra de l'ennemi. Comme Jésus-Christ, David a été oint, comme nous venons de le voir au verset 13, a été oint de Dieu et du Saint-Esprit. Christ aussi a été oint de Dieu et du Saint-Esprit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et sa vie, la vie de David, forme l'image de la vie de Jésus-Christ. Et voici comment l'Éternel décrit David dans la Bible, le successeur du roi Saül. Dans 1 Samuel 13, le verset 14, l'Éternel dit ceci: « L'Éternel s'est choisi un roi selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. » Mais à partir du moment où Samuel l'a oint roi, il faudra de nombreuses années avant que David devienne réellement roi. Beaucoup d'années avant qu'il devienne réellement roi et soit publié loin d'abord comme roi de Juda, puis comme roi d'Israël. Entre parenthèses, c'est pas la même chose, quoi. Surtout aux États-Unis, le roi élu et le président élu et le président en place. Donc, on vote le président au mois de, je ne sais pas quand encore aux États-Unis, au mois de novembre, mais il rentre en fonction au mois de mars ou au mois de janvier, ce temps-là. Donc, David, il a été roi, mais il s'est passé de nombreuses années avant qu'il devienne déjà roi. Pourquoi? Parce qu'il arrive des fois que Dieu ait besoin de plusieurs années pour nous préparer pour son service, pour nous façonner, pour nous équiper. Il est déjà équipé du Saint-Esprit, mais il faudra aussi des temps, même pour nous aussi, frères et sœurs. Ne soyons pas pressés pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur voit ton cœur, le Seigneur sait ton cœur, mais le Seigneur sait. Il peut y passer quelques temps, il peut passer quelques mois, quelques années, comme David, parce que le Seigneur le préparait à cela. Enfin, frères et sœurs, pour finir, le choix de Dieu pour David n'était pas basé sur son apparence extérieure, ni sur sa force physique, ni sur ses compétences ou sur son charisme. Mais le choix de Dieu s'est basé sur le cœur de David. Le cœur de David aimait ce que Dieu aimait. Et Dieu pouvait voir tout cela dans son cœur. Notre cœur, frères et sœurs, est ce qui compte pour Dieu, pas autre chose. Ce sont des choses intérieures qui comptent plus pour notre Dieu. Et c'est le même Dieu qui voit nos cœurs ce matin. Il sait ce qu'il y a au-dedans de nous. Il voit ce qu'il y a au-dedans de chacun d'entre nous comme nous sommes là. C'est pour cela, dans notre vie chrétienne, ne jugeons pas les autres sur leur apparence extérieure. Ne jugeons pas nos frères, nos sœurs, sur leur apparence extérieure, frères et sœurs. Nous risquons de passer à côté de la vraie valeur de la personne si nous ne jugeons pas apparence extérieure. Jean chapitre 7, l'évangile de Jean chapitre 7, verset 24 dit ceci: ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Mais avant toute chose, nous devons donc compter sur Dieu pour avoir le discernement dans toutes choses. Nous ne devons pas faire des choses selon nous-mêmes, mais selon ce que le Seigneur nous montre. Nous devons apprendre à voir les choses comme Dieu le voit. Le Seigneur voit le cœur, connaît nos secrets intimes. Et je vais finir par ce verset de 2 Thessaloniciens 3:5, que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Prions le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Toi qui vois toutes choses, même les choses cachées. Toi qui vois nos cœurs et tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur. Permets qu'à la lumière de ta parole, Seigneur, nous puissions nous conformer, Seigneur, à ta parole qui est la vérité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à voir les choses comme toi tu le vois. Aide-nous à ne pas seulement voir les apparences extérieures, mais que nous puissions d'abord te prier pour avoir le discernement et voir les choses comme toi tu le vois. Car toi seul tu vois le cœur, toi seul tu vois nos cœurs. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Permets que nous puissions être vraiment des témoins fidèles, des chrétiens qui te ressemblent, Seigneur, en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.